straight.
Entre les pages. Et c'est le 77e numéro de Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Mais aussi, c'est la dernière émission de la saison avant de prendre nos quartiers d'été chez des écrivains pendant les 4 prochains rendez-vous. Aujourd'hui, 2 invités dans le studio, 2 invités, mais une seule personne, Aline de Pétigny. Elle vient parler de la maison d'édition qu'elle a montée avec son frère il y a maintenant plus de 20 ans, Pour Penser Édition. Un travail tout à fait original, mais dans un second temps, c'est Aline de Pétigny, autrice, illustratrice, et sans doute beaucoup d'autres choses encore que j'interviewerai. Bonjour, Aline de Pétigny.
Bonjour, Luc.
Vous venez de Cholet, l'un des confins de l'Anjou.
Ah non, maintenant je suis en Vendée.
Ciel, en Vendée, décidément, ouais. Tout change dans cette géographie. Alors, l'Anjou est en train de marcher, d'empiéter sur les terres de l'Anjou. C'est un inversement du mouvement de l'histoire. La campagne n'était pas trop brûlée par le soleil, là, en venant?
C'est chaud, mais bon.
Ouais.
C'est bien la pluie aussi.
C'est bien aussi la pluie. Ah, mais fais les danses de la pluie tous les jours pour que la pluie tombe.
Oui, tout à fait.
Pour Penser Édition, cela fait longtemps que je voulais vous rencontrer. Ce nom m'intriguait et plus encore votre catalogue. Vraiment très, très spécialisé. Mais je crois qu'il faut commencer par le début. Revenons il y a un peu plus de 20 ans.
On va revenir même à 22 ans, presque 23,
ouais, c'est ça. Ouais,
par justement de l'auto-édition.
Par de l'auto-édition, ça y est, on est parti. Et bien justement, 23 ans, c'est quoi qui a tout déclenché?
Ça faisait déjà plus de 10 ans, c'est une quinzaine d'années, une grosse quinzaine d'années que j'étais éditée, soit par des magazines, soit j'avais un éditeur aussi, Fleurus, qui m'avait pris des livres. Donc voilà, je pataugeais là-dedans depuis plus d'une quinzaine d'années, en jurant mes grands dieux que jamais je m'auto-éditerais, que jamais je monterais une maison d'édition, bien sûr. Et puis un jour, j'ai écrit un livre. Trois histoires. J'ai écrit trois histoires, et ces trois histoires-là, je me suis dit, ça, si je les présente à des éditeurs, je sais le retour que je vais avoir, c'est non, c'est pas pour nous, non, ça marche pas. Enfin, voilà, les thèmes, c'était sur le bonheur, en fait, là.
Tiens donc, déjà le bonheur.
Le bonheur avec rien, en fait, l'histoire d'une princesse qui a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse. Enfin, ce qu'on dit être.
Une princesse, quoi.
Une princesse, qui avait plein de choses, et puis ça allait pas, quoi. Elle était pas heureuse. Et puis elle rencontre une bergère qui a un chien, 3 moutons, et voilà, c'est l'éclat total, et voilà, ça va très bien pour elle. Et donc c'est la rencontre de cette princesse, de cette bergère qui comme m'a dit une petite fille un jour en classe, elle me dit, oui, mais en fait, la bergère, elle apprend rien à la princesse. Je lui dis, non, tout à fait, elle apprend rien. C'est juste qu'elle est qui elle est. Et que ça inspire la princesse qui va avec cette relation, grandir, changer et voir ce que c'est. Se dire qu'être heureuse, c'est peut-être aussi autre chose qu'avoir plein de choses.
En quelques mots, là, vous venez de donner tous les germes de Pourpenser Édition.
Oui, ce livre-là, donc ça, c'était ma première histoire. La deuxième, c'était La Robe Invisible, qui est sur le deuil, une grand-mère qui va mourir et qui parle à sa petite-fille, qui lui dit, ben voilà, mon corps va être mis en terre, mais moi, je serai toujours là près de toi. Puis la troisième histoire, l'histoire d'un petit ours qui pense à l'envers. Ce qui a donné le nom de la maison d'édition. Ah, hein, voilà. Le nom vient de là. Hein. C'est un petit ours. À chaque fois qu'il commence une chose, il se dit qu'il est nul, qu'il ne peut pas y arriver. Donc, dans l'histoire, je dis qu'il pense à l'envers et que petit à petit, il va apprendre à penser à l'endroit. Mm-hmm. D'où le nom de la maison d'édition. C'est-à-dire qu'il va réussir à faire les choses en se disant qu'il va y arriver plutôt qu'en se disant qu'il est nul. Mm-hmm. Voilà, pour penser à l'endroit, ce que ça voulait dire dans l'histoire.
Ça explique le logo où édition est à l'envers.
Tout à fait.
Ah, voilà, j'ai la réponse à ma question.
Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai retrouvé, en fait, mes premières cartes professionnelles d'autrice, donc qui étaient avant la maison d'édition, et déjà, Aline de Bettigny, vous le retrouviez à l'envers. Donc, en fait, c'est cette histoire de l'envers à l'endroit.
Ça vous marque, ça vous suit.
Hein. C'est quelque chose qui est vraiment moi. Hein. Et donc, voilà, ce petit ours qui pensait à l'envers, ben c'est devenu les éditions donc pour penser à l'endroit.
Ouais.
Et puis à l'endroit, on l'a gardé. Voilà, c'est vers 2010-2011, on a enlevé à l'endroit, on a resserré pour et penser qui sont devenus un seul mot, pour penser, qui est un vrai verbe de la langue française, hein, qui veut dire bien réfléchir à quelque chose sous tous ces aspects, dans tous ces et donc c'est devenu pour penser édition, toujours en gardant cette histoire de il y a quelque chose qui est à l'envers, parce que une chose se regarde dans tous les sens pour mieux la comprendre. Faut avoir un maximum de points de vue.
Mmh. C'est la parabole de l'éléphant et des aveugles qui viennent toucher et qui découvrent et qui ne décrivent pas forcément la même chose. Mmh. Hein. Mmh. Et il faut exercer notre regard justement à bien observer les choses.
Bah, voilà, notre papa quand on était petit nous disait ben voilà, il y a une colline. Toi, t'es d'un côté, l'autre de l'autre, et chacun décrit son versant de la colline, et pourtant, c'est la même colline, et pourtant, on ne voit pas la même chose.
Cette affaire de pourpenser, c'est une affaire de famille. On ne peut pas ne pas citer votre frère dans cette aventure.
Donc, qui est venu me rejoindre. Donc, voilà, pour le livre La princesse et la bergère et deux autres contes, je l'ai auto-édité. En fin de compte, il y a une amie qui me dit je vais te présenter à un imprimeur, Paul Tricoire, et il m'a dit bah, écoute, j'imprime et tu me payes quand tu peux. Voilà, je me suis donc retrouvée avec 1000 bouquins. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, par ce livre qui a en lui toutes les. Effectivement, toutes les. Le noyau, en fait, de Pourpenser. Et puis, donc ça c'était fin 99-2000, et puis en 2002, pour le troisième livre, entre les deux, j'ai auto-édité aussi Tout est possible. Et puis, troisième livre en 2002, là j'ai créé une structure parce que l'auto-entrepreneuriat n'existait pas encore. Donc il me fallait bien une structure, et donc j'ai créé Pourpenser. Et Albert est venu me rejoindre dans l'année qui a suivi, dans l'année qui a suivi.
Un frère, une sœur. Vous n'aviez pas encore franchi la frontière de la Vendée. Vous étiez encore à Cholet,
oui,
c'est ça?
Oui,
c'était Cholet, votre.
Oui. Moi, j'ai quitté Cholet il y a 3 mois.
Ah, quelle rue de Cholet? Je suis curieux parce que je.
Alors ça a été rue Léon Pissot et puis ensuite rue Marie Baudry.
Je m'y retrouve. Et donc, votre frère vous rejoint. Est-ce que est-ce qu'il y a une répartition des tâches entre vous deux? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès le début, on entend bien que vous êtes plutôt à la création. Vous êtes une artiste, une créatrice, une autrice et une illustratrice hors pair. On va en parler. Lui, il est venu apporter quelle contribution dans cette aventure-là?
La contribution du rapport à l'extérieur. Moi, j'ai un bon rapport à l'extérieur, mais j'ai pas. Je suis comme je suis, je peux pas être autrement. J'ai pas de plan B, hein, j'ai qu'un plan A. C'est être moi et voilà. Et des fois, je suis assez carré. Dans mes rondeurs, je suis assez carré.
J'ai l'impression.
Et ça passe pas avec tout le monde. Alors qu'Albert a ce rapport à l'autre beaucoup plus. Beaucoup plus à arrondir les angles.
Ouais.
Et tout. Moi, je, voilà, arrondir les angles ne m'intéresse pas plus que ça.
C'est pas votre fort, hein. J'ai pas l'impression.
Je pourrais le faire, hein, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Mm-hmm. J'aime que les choses, moi, j'ai besoin de clarté. J'aime que les choses soient claires. C'est nécessaire pour moi, intérieurement. Mm-hmm. J'ai vraiment besoin de cette clarté-là, quoi.
Mm-hmm. Alors, dans cette maison d'édition, on en parle, là, on a parlé de la création. Vous avez déjà donné, cité les livres qui ont été un peu les, à l'origine de cette maison. Il y a une couleur à Pourpenser Édition. Il y a un axe. Vous n'éditez pas n'importe quoi, vous ne publiez pas n'importe quoi. C'est plutôt... Est-ce qu'on peut parler de développement personnel.
S'il faut trouver un mot que tout le monde peut comprendre rapidement, on va employer ces termes-là.
Je sais qu'il...
Après, c'est toujours... En fait, j'aime pas certains mots qui mettent dans des cases et qui mettent trop dans
des
cases. Ouais, c'est ça. Je préfère... c'est des questionnements sur la vie, sur les sujets importants de la vie qu'on se pose tous, quel que soit notre âge, et qui nous font grandir.
Si je le pose, je pose délibérément cette question et j'utilise délibérément le terme de développement personnel parce que quand on parle de développement personnel, on peut pas ne pas penser à une autre maison d'édition qui s'appelle Odile Jacob, qui est spécialiste dans tout cela. Et je sais que c'est pas ces mots-là que vous revendiqueriez au départ.
Non.
Mais c'est pour ça que moi j'ai besoin que vous mettiez plus de mots derrière ça, c'est-à-dire pour pas qu'on vous cantonne à cet univers.
C'est difficile de pas être cantonné parce que déjà on va nous dire ce sont des livres pour les enfants. Alors oui, ce sont des livres pour les enfants, mais en fait ne compte pas que. Parce que ceux qui nous découvrent, même quand ils prennent Tout est possible en main, ils le regardent et ils font au début, c'est pour les enfants. Quand ils commencent à lire, ils me regardent, ils nous regardent en salon et ils font, mais en fait, c'est pas que pour les enfants. Mm-hmm. Non, c'est une histoire sur la visualisation créatrice, sur l'importance du souhait. Et une histoire sur l'importance du souhait, ça nous concerne tous, quel que soit notre âge. Et si on est prêt à faire le pas de retrouver l'enfant que nous sommes, que nous sommes tous et toutes, ce sont des livres pour tout le monde. Mm-hmm. Après, on n'accroche pas, au même titre qu'avec un bouquin pour adultes, on va accrocher ou on ne va pas accrocher. Mm-hmm. Ce sont des livres pour se retrouver, retrouver l'enfant que nous sommes, et puis... retrouver tous ces questionnements qui, au fil de la vie, en fin de compte, peuvent disparaître parce qu'on est pris par le quotidien. Mm-hmm. Et ces questions de vie, à un moment donné, on les retrouve. Et il vaut mieux les retrouver, pas dans l'urgence, il vaut mieux y réfléchir quand on n'est pas confronté à elles directement, quoi, je trouve.
Vous essayez d'interroger ce qui est l'ontologie, l'essentiel de l'homme, ce qui est au fond de lui-même, et vous n'hésitez pas à c'est effectivement il y a une offre jeune public, c'est pour du jeune public, et vous n'hésitez pas à confronter le jeune public à des problématiques d'ordre philosophique, vous n'avez pas froid aux yeux en la matière,
je vois pas où est le souci, en fait. Moi, j'ai jamais vu qu'il y avait un souci à ce niveau-là.
Oui.
Alors peut-être que j'en sais rien, mais les enfants aiment parler le sujet, un sujet qui les passionne, c'est quand même la mort. Hein. Voilà,
oui.
Les adultes ont très très peur de ce sujet-là et d'aborder ce sujet-là avec les enfants parce qu'ils savent pas comment. Souvent ils savent pas comment faire pour l'aborder. C'est un sujet que je trouve, j'ai toujours trouvé passionnant. Et il y a plein de sujets. Les premiers philosophes, ce sont les enfants. Hein. Moi j'ai entendu mes enfants me sortir des phrases. Et tout le monde a eu un enfant près de lui, très jeune, qui lui a sorti quelque chose de formidablement beau et philosophique et poétique. Donc, les enfants, tout ça, ils l'ont en eux. C'est moi, je dis, j'écris pour que les enfants n'oublient pas et que les adultes se souviennent. Moi, c'est vraiment ça.
Alors, vous dites, j'écris. Et on sent bien que, et on en parlera dans la deuxième partie, on sent bien que vous avez... en plus, elle fait le standard. On sent bien que voilà, votre passion c'est l'écriture, mais il y a d'autres autrices et d'autres auteurs. Je me reprends parce que j'allais dire une grosse bêtise en parlant. Il y a d'autres autrices et d'autres auteurs pour penser. Comment ces gens arrivent chez vous?
Ah ben on se le demande. Mais franchement, les premiers projets qu'on a reçus, je pense à celui de Katia Belsito, Les mots du cœur. Réellement, je me suis toujours posé la question comment elle était arrivée jusqu'à nous depuis l'Italie pour nous trouver nous. Ça a toujours été un mystère. Voilà, elle nous a trouvés via Internet, ça c'est certain. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais voilà, depuis le début, je suis étonnée. Alors maintenant moins, mais au tout début, j'étais vraiment très très étonnée de recevoir des projets. Ce qui donne la teinte aussi à Pourpenser, c'est que Pourpenser est fondée par une autrice. Et ouais. Ça, je pense que ça teinte,
ça
en
marque.
Fait, ça obligatoirement ça teinte différemment. Les textes que l'on publie, on n'y retouche pas. Ce sont vraiment les textes d'auteurs. Les illustrateurs, les illustratrices sont laissés extrêmement libres dans leur travail. On veut avoir une empreinte sur le travail des auteurs, l'empreinte la plus faible possible.
Alors, ça m'amène à poser une autre question. Il y a des gens qui s'adressent à vous pour être édités. Vous ne touchez pas à l'objet qu'ils vous proposent. Vous l'acceptez ou vous le refusez?
Oui, je l'accepte, je le refuse.
Oui. Qu'est-ce qui fait
je ne vais pas... Alors, c'est tout à fait partisan, enfin... Je suis le premier filtre pour penser. Est-ce que j'ai le coup de cœur ou pas? Donc c'est tout à fait injuste.
Donc vous avez un cœur.
Oui, c'est tout à fait injuste comme truc. Est-ce que j'ai le coup de cœur ou pas? C'est ça. Après, la seconde question, c'est est-ce qu'on a de la place éditorialement? Ça, c'est autre chose.
Ouais. C'est quoi la place éditorialement?
C'est-à-dire que là, notre planning est plein jusqu'à début 24, quoi.
Ouais.
Donc, c'est toujours frustrant d'avoir des projets qui sont chouettes et de se dire non, là, on ne prend pas parce qu'on ne va pas savoir.
Ça ne va pas rentrer.
On ne va pas pouvoir le défendre comme on voudrait, on ne va pas pouvoir en parler comme on voudrait, on ne va pas.
Là, j'ai sous les yeux. Alors, vous m'avez fait rajeunir, vous savez que vous m'avez fait rajeunir.
C'est le livre de Joël.
Voilà, Charlie et Belinda, la grosse bêtise de Joël Debro.
Alors, elle a repris son nom, Joël Stoffacher.
Alors, bon...
Ça dépend des... Ouais.
C'est une ancienne édition.
C'est une ancienne édition.
Donc, la grosse bêtise, deux animaux, en fait.
Une petite fille moutonne.
Une petite fille moutonne.
Voilà. Et Belinda, petite fille moutonne, et Charlie, le chat.
Le livre, il est arrivé comme ça, je m'entends, c'est une maquette, c'est arrivé sous forme de maquette.
Mais alors, pas la grosse bêtise qui est arrivée en premier, c'est le précédent, qui s'appelle Charlie et Belinda Moche. On n'y est pas retouché, non? Mais pourquoi retoucher à quelque chose pour lequel on a un coup de cœur? Moi, je voudrais qu'on m'explique l'intérêt de la chose, à part vouloir laisser son empreinte.
M'agressez pas comme ça, moi, la seule question, je vous
dis. Non, parce que c'est pas vous, c'est vraiment, non. Il y a vraiment, moi, j'ai rencontré des éditeurs, des éditrices qui avaient à cœur vraiment de laisser leur empreinte sur le travail de quelqu'un d'autre. Et je suis toujours étonnée, interloquée de ça, alors que non, on n'a rien à faire en tant qu'éditeur.
Si la maquette est arrivée, moi je trouve que le bouquin... Alors quand je dis que ça m'a fait rajeunir pour que les gens comprennent, ça me rappelle quand je faisais la lecture à mes garçons, quand ils étaient petits. J'ai feuilleté des livres de cette nature-là, qui racontaient des histoires un peu de ce type-là. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire celui-là, d'ailleurs. J'ai trouvé intéressant cette fameuse grosse bêtise. Vraiment une très grosse bêtise. Mais heureusement, on est pardonné à la fin, parce qu'il y a des gentils amis.
Parce qu'en fait, C'est très embêtant, mais c'est pas grave.
Oui, c'est pas. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Donc non. Quand je posais la question en disant est-ce que c'est arrivé, est-ce qu'il est arrivé comme ça, c'est que c'est effectivement une proposition qui est mise en page. Enfin, il y a vraiment, il y a des dessins qui sont magnifiques. C'est des dessins qui sont faits à la craie grasse ou autre. C'est vraiment très beau.
À part, voilà. Peaufiner la mise en page que l'auteur que Joël a quasiment faite, voilà, faire la couverture. Non, notre empreinte doit être la plus neutre. Pour moi, en tant qu'éditrice, il faut que l'empreinte soit la plus neutre possible.
Mmh. Est-ce que, dans à propenser, il y a une prévalence du jeune public ou alors vous ciblez, enfin, vous avez dit c'est le coup de cœur. Donc j'imagine que quand un livre vous arrive, je vais prendre par exemple « Plus belle sera l'aurore », le journal de bord d'une soignante de Tiphaine de Vallière. Là, il y a coup de cœur, là.
Ah ouais. Moi, je trouve que c'est un superbe texte.
Ah, c'est bouleversant.
C'est bouleversant, ouais.
Moi, j'ai lu ça, j'étais glacé, désespéré, effrayé, ému. Voilà, je crois
c'est
que j'ai mis tous ces
mots. Humain, en fait. C'est purement humain. Ah ouais, c'est vraiment de superbes textes.
Ouais, une soignante qui décide de prendre la plume, en fait, qui
le soir.
Voilà, on imagine
pour
le soir.
Pour se libérer le soir, en fin de journée, pour se libérer, Tiphaine, elle écrit, quoi.
Ouais. Elle raconte.
Elle a besoin, en fait, de poser sur le papier tout ce qu'elle vit dans la journée, qui n'est pas facile, puisqu'on voit bien que c'est pas facile. Quand on lit le livre, on voit que c'est pas facile.
Quand on y a été confronté, voilà, quand on a été confronté à ces situations, on a été mis en relation, on replonge dedans, enfin, elle nous fait replonger dedans, mais il y a des chapitres avec, ou des paragraphes plutôt, pas des chapitres, avec une telle poésie, une telle humanité, qui est très loin de d'une bienveillance un peu mièvre. Je veux dire, quand elle dit que ça sent la merde, ça sent la merde, quoi. Enfin, il y a pas, voilà, on a le nez dessus, quoi.
Il y a une poésie dans ce livre.
Mais il y a une poésie.
Moi, je trouve que le texte est magnifique.
Donc, là, je comprends le coup de cœur. Enfin, j'ai aucun problème. Ouais. J'imagine, moi, que quand on reçoit ça, on se dit, ben non, on peut pas passer à côté.
On peut pas. Et elle l'a auto-édité.
Oui.
Avant, elle l'avait auto-édité. Elle voulait, lui redonner une autre vie encore.
Oui.
Et voilà, grâce à l'impression numérique, on va pas l'imprimer un livre comme ça, on va pas l'imprimer à 2000 exemplaires parce qu'on sait qu'il, vu le sujet, il va être difficile à vendre, donc on va en imprimer 200 exemplaires. Mmh. On est d'accord avec l'auteur que, des sujets comme ça, ils sont difficiles à vendre, hein,
Je pense qu'il aurait dû être mis dans le petit attaché case qu'a reçu chaque ministre, qui vient de prendre ses fonctions.
Tout à fait,
il aurait trouvé tout à fait sa place. Parce que
pour qu'il soit confronté.
Ben oui, il n'y a plus besoin de se poser des questions.
À la vraie vie,
en fait, après, il n'y a plus qu'à dire les réponses, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, j'imagine aussi que Unicarb, quel régal ce bouquin. Unicarb, un album, un grand album. Une fable écologique.
Hein, c'est ça, c'est le travail de Laura Edon.
Ouais.
Et elle nous a présenté l'histoire, quelques dessins, et en disant il faut que je le fasse en quel format, parce que selon les éditeurs, moi je peux pas avancer dans mon travail tant que j'ai pas trouvé un éditeur. J'ai dit, en fait, tu fais comme tu veux, on va se mettre d'accord à peu près, mais en fin de compte, si tu veux un format comme ci ou comme ça et que c'est vraiment important pour toi, juste tu le dis, quoi.
Alors moi, ce livre, j'ai adoré aussi, je sais pas si je suis objectif ou pas, puis je m'en fous un peu, en fait, hein. Enfin, je m'en fiche
mais
un peu.
Il n'y a pas de jugement, en fait, c'est juste on aime ou on n'aime pas.
Oui.
Il n'y a pas à se poser plus de questions.
C'est une telle fable, une telle fable. Imaginez une planète sur laquelle il n'y aurait qu'un arbre et que les gens sabotent allègrement. C'est tellement beau. Et puis les dessins sont magnifiques. C'est vraiment extraordinaire.
Sont tout doux.
Donc là aussi, je pense qu'on doit être dans le coup de cœur en se disant ça m'a renvoyé à des livres à nouveau, jeune public, que j'ai lu en d'autres temps. Mm-hmm. Je vais en citer un parce que c'est un livre qui me tient à cœur. C'était Le Chien Bleu de Nadja, qui est à nouveau une fable, sur l'animal et les autres et autres, et que je trouvais, que j'ai gardé là, qui est toujours dans ma bibliothèque. Et ce livre-là m'a renvoyé à ça, c'est-à-dire une réflexion douce, simple, efficace, belle. C'est un vrai plaisir à lire. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Donc, effectivement, je comprends qu'on puisse avoir un coup de cœur pour un livre de cette nature.
Oui.
Je vais vous proposer qu'on fasse une pause musicale.
Кому Бог відкриє карман повний? влітають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати полум'я за барикадами. Куди дівати свою віру правду? Це ніби якийсь пранк, але пали стіни храму. І те, що ми чули зранку за своїми фіранками, змусило нас переоцінити свої рамки тут. Бо в серці завжди є місце для любові. І хай з неба л'ється цілі шапові. Бо спершу за своє, а за інше потім. До істини вези нас потім.
Кому Бог відкриє карман повний істини? Тому хто черпає долонями чистими? Чому ж ми йдемо на невивчені?
Навколо шматувати все. Так хочеться для споменів тримати сейф. Так хочеться для всіх здаватись кращими. Так казали пращури, і слова ці мали сенс. Чому ж навколо скільки всього злого? І душу тебе ранить смерть, вже не ранить слово. Вирвіть мені серце, люди, адже я не робот. Скільки ще пролитись має крові? Плакати, злитися, бути спустошеним. Кажуть, нормально, і так робить кожен. Та як по крупиці зібратися в ціле, коли все навколо лиш чорне та біле. Пофіксити зламане, зцілити душу. Ми як нові, тільки з міткою бувшого. Час все розставить на свої місця, там, де в серці відкриті дверцята.
Кому Бог відкриє карман повний істини? Тому хто черпає долонями чистими? Чому ж ми йдемо на невивчені?
Écoutez, Aliona Aliona avec en featuring Jerry Hale qui ont chanté Shtomu. Pourquoi ? En ukrainien. 6 juillet 2022, 133 jours de la guerre provoquée par la Russie en Ukraine, il me tient à cœur de faire entendre les musiques de l'Ukraine, celles qui se font aujourd'hui. Aliona Aliona est une ancienne institutrice qui a choisi de faire du rap, et elle en fait bien. Comme nombre d'artistes ukrainiens, elle s'exprime dans sa langue depuis le début. Une façon à leur manière de nous obliger à ne pas oublier. Vous écoutez Radio G sur la fréquence 101.5. Vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou, où il est 17h28. Et je suis maintenant avec Aline de Pétigny. Aline de Pétigny, nous venons de passer un moment à parler de Pour penser édition, de son origine, de comment tout ça est venu. Parlons maintenant de vous et de votre travail. Et en plus de votre travail d'éditrice, vous êtes aussi autrice et illustratrice. Comment on comprend qu'on est autrice ou illustratrice ? Comment ça vient dans la tête ?
Ah bah non, c'est pas venu, j'ai pas fait exprès, moi je dis, j'ai pas fait exprès, moi ce que je voulais c'était moi, j'avais 21 ans, je me suis dit ok, moi je veux travailler chez moi, parce que j'avais déjà deux enfants et que je voulais les voir grandir, donc pour moi c'était évident que je voulais travailler chez moi, ne pas avoir de patron parce que j'avais déjà pitié pour lui, ne pas avoir d'horaire, parce que je me connais quoi, et à 21 ans je me connaissais déjà très bien, faire quelque chose que j'aime parce qu'il est hors de question que je me lève le matin en me disant je vais faire quelque chose que j'aime pas. Et alors un matin de temps en temps ça va, il n'y a pas de souci, hein, mais tous les matins c'était inenvisageable. Et puis que financièrement ça tienne la route. Bon, le financièrement que ça tienne la route, ça a mis du temps, mais en fait c'est arrivé un jour. Mais donc voilà, et de là, de ce souhait, parce que c'était vraiment des souhaits, hein, voilà, j'ai fait ouais, bon, si ça c'est possible. Et de ces souhaits sont arrivées plusieurs pistes, et la piste qui s'est ouverte, hein, qui s'est, sur laquelle, en fait, il y a, moi j'aime beaucoup la loi du moindre effort. si je dois mettre énormément d'énergie pour avoir très peu de résultats, moi ça ne m'intéresse pas. Je pense pas que ça intéresse grand monde d'ailleurs. C'est là où je mettais le moins d'énergie qui avait le plus de résultats. Donc je me suis dit, bon, mais apparemment c'est par là.
La pente est bonne.
Apparemment c'est par là qu'il faut que j'aille, quoi. Donc voilà, j'ai pas fait exprès.
Donc le. Alors ça, je le comprends. J'arrive à l'intégrer, à le comprendre. Pour ce qui est de l'écriture, écrire, on l'a appris à l'école. Et puis on peut, peaufiner. En plus, vous étiez un peu, assuré parce que vous aviez eu ces trois premiers bouquins que vous aviez réussi à écrire.
Ça, non, c'était avant, ça. Ça, c'était en 84, alors que les livres, là, j'avais rien, je partais de rien.
Oui, justement, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que vous aviez déjà commencé à écrire, donc il y avait déjà le sentiment de savoir-faire. Par contre, moi, c'est l'illustration qui m'intéresse.
Alors, j'ai toujours dessiné.
Oui.
Vous avez
un très particulier, hein.
Je sais pas, en fait, j'ai aucune technique. Je dessine comme je dessine et je sais pas dessiner autrement que comme moi. Donc, voilà, ça donne ça. On aime, on n'aime pas. En fait, je sais pas faire autre chose.
Ouais.
Je dirais presque. Je suis comme je suis et encore une fois, je sais pas faire. Je ne sais pas dessiner autrement que comme je dessine. Après, mon dessin, il a évolué. Si vous prenez mon dessin d'il y a 30 ans, mon dessin d'il y a 20 ans, mon dessin d'il y a 10 ans et mon dessin aujourd'hui, vous voyez vraiment l'évolution. Mais c'est vrai que j'ai toujours dessiné. Étant petite, de 6 à 13-14 ans, j'ai fait des ateliers Arnaud Stern qui sont le jeu de peindre et où là, on n'apprend aucune technique. On est juste là pour...
S'exprimer,
pour peindre, et sans aucun jugement, rien du tout. On récupère jamais ses dessins, les parents ne voient jamais les dessins. Et ça, je pense que ça m'a été... C'est ce qu'il me fallait. On m'aurait mis dans des cours de dessin, je crois que ça m'aurait rapidement dégoûté.
C'était où, ça ?
C'était à Cholet, il y avait Madame Janot qui faisait l'atelier des enfants, et c'était, une grande gratitude envers elle, parce que vraiment, ça a été pour moi... mais vraiment quelque chose de très très important.
Parce que ce qui m'interpellait, moi, c'est il y a deux éléments comme ça que je ressors de votre travail de dessin. Je dis illustratrice, mais c'est peut-être pas très bien, il faut parler de dessin. Il y a déjà une grande cohérence. Enfin, au fil des livres que j'ai feuilletés de vous, il y a une cohérence pas forcément esthétique, mais dans l'esprit. En fait, on retrouve presque un état, c'est très étrange, un état de vous dans les dessins que vous publiez. C'est très souvent très doux, très... J'ai devant les yeux une double page. Alors, je ne sais pas quel est l'arbre qui est dessiné.
Eh bien, c'est l'arbre de ma vraie nature. Hein. C'est ma vraie nature. C'est un conte sur c'est des personnages un personnage notamment qui monte dans un arbre. Et c'est une espèce d'arbre monde dans lequel il va croiser des fleurs, des êtres. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Je ne les nomme pas parce que moi-même je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est ces rencontres très philosophiques, parce que les fleurs, les rameaux, les feuilles, tout le monde philosophe dans cet arbre. Tout le monde se pose des questions, se demande ou lui demande justement à ce personnage, mais qui est-il, quoi.
Alors, ça commence très drôle, très... Alors, je reparle, j'étais sur le dessin. Là, j'ai devant moi une double page sur un fond bleu-vert. Une page très florale, remplie. En fait, c'est une double page complètement remplie, qui est assez hypnotisante, qui est assez belle, enfin qui est très belle d'ailleurs, et qu'on retrouve, enfin on le retrouve après avec des oiseaux. Enfin, c'est en sens que je dis que j'ai l'impression que c'est vous qui êtes là-dedans, mais ça serait surprenant que ce ne soit pas vous qui soyez là-dedans. Et je trouve ça très beau et très cohérent. Enfin, c'est un peu ça qui ressort. Donc cette Madame Janot a été une facilitatrice pour vous permettre de s'exprimer, émérite.
Elle a été, son non-jugement qu'il y a dans ses ateliers, sont tellement bénéfiques. Il n'y a pas de jugement, il y a juste, on est juste là pour peindre avec cette table de couleurs qui est magique. Et quand je me suis remise à peindre il y a quelques années, j'y arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai eu le truc de me dire, mais en fait, la seule chose qui m'importe, c'est la couleur, donc je vais aller jouer avec la couleur. À partir du moment où je me suis dit, je vais jouer avec la couleur, j'ai réussi à peindre.
Ben c'est surprenant que j'entende que vous disiez j'y arriverai pas ou j'y arrive pas.
La peinture, non, parce que la peinture c'est autre chose que le dessin. C'est vraiment une autre. Pour moi, c'était vraiment autre chose. Mes peintures n'ont rien à voir à part peut-être les couleurs. Voilà, j'essaye pas de représenter quelque chose. C'est vraiment, voilà, j'y vais pour m'amuser avec la couleur. Vraiment ça, quoi. C'est.
Alors, dans ce livre, Ma vraie nature, hein, dont vous avez écrit le texte et dont vous avez réalisé les dessins, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre. C'est que ce jeune garçon, alors il s'appelle, j'ai oublié son nom, Anselme. Et il part avec Zoé, sa sœur. Puis en fait, sa sœur a disparu complètement. Hein.
Zoé, alors Zoé n'est pas sa sœur. Hein. À un moment, je dis que c'est sa sœur, mais j'aime bien.
Ah, ben
pas
moi
encore.
J'ai décidé que c'était sa sœur.
Oui, c'est voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Zoé, je ne sais pas ce qu'elle est devenue dans l'histoire, on la retrouve à la fin.
J'ai l'impression que vous l'avez oubliée en cours de route, là, on suit.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, j'ai écrit sans savoir ce que je vais écrire. J'ai aucun plan. Je commence à écrire, je ne sais pas où je vais, c'est une promenade, et je me promène. Et puis Zoé, à un moment donné, j'ai fait, tiens, elle n'est plus là, elle a dû partir ailleurs.
Mère indigne.
Non, parce que Zoé, cette Zoé-là, en fait, c'est la Zoé qui a dans Tout est possible, qui est le deuxième livre que j'ai sorti chez Pourpenser, au moment où ce n'était pas encore Pourpenser, puisque c'était de l'auto-édition. Et c'est cette Zoé qui revient dans 20 ans après, dans Ma vraie nature. Mais j'ai pas fait du tout exprès. J'ai écrit ce livre-là. Je l'ai écrit sur un an, mais sans écrire tous les jours. Hein. Je pouvais être deux mois sans y toucher. Là, actuellement, je suis sur un texte qui s'appelle La douceur de la cannelle. J'ai pas touché pendant 4 mois. Là, j'y reviens. Et je sais pas où je vais. Et c'est ça qui m'intéresse, qui me fait que j'écris. J'écris pour savoir l'histoire.
Ah ben on va y venir alors, parce que il n'y a pas que vous qui veut savoir l'histoire, parce que là vous m'avez mis dans une drôle de situation, mais on va y venir. Dans ces deux pratiques, entre l'écriture, le dessin, la peinture, vers laquelle vous allez plus facilement, vous vous reconnaissez le plus? Oui, je suis sûr que vous allez me dire aucune, mais bon, je tente le coup.
C'est indissociable.
Je m'en doutais, ça.
C'est indissociable. J'ai besoin des mots, et j'ai besoin du trait et de la couleur. Voilà. Les mots sont importants. Non, je peux. En fait, c'est très, très indissociable. Je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Enfin, faire. Ils se rencontrent à un moment donné.
Faire l'un et qu'il n'y ait pas l'autre.
À un moment donné, ils se rencontrent. Il y a même des dessins que je fais sans savoir pour ou pas. Et à un moment donné, je fais « Ah, mais en fait, ce dessin, il va dans tel projet. »
Et est-ce que ça existe en même temps, ça existe dans le même espace, le dessin, l'écriture? Est-ce que, par exemple, dans ce livre dont on vient de parler, donc « Ma vraie nature », le dessin, il est en même temps que l'écriture dans la tête?
Là, oui. Dans la tête, non. Même, là, je crois que j'ai dessiné, j'ai commencé à dessiner alors que le texte n'était pas terminé. Oui.
Ah oui.
Souvent, j'écris parce que là, c'était sur un an. Souvent, quelque chose comme justement tout est possible, j'ai dû l'écrire en une journée ou deux, quoi. Donc après, viennent les dessins.
Alors, je sais pas. Ah, dans quel sens je vais continuer? Je vais parler d'un livre, du tableau hanté, assez surprenant.
Oui.
Surprenant parce qu'il ne correspond pas du tout à Pourpenser édition, il ne correspond pas du tout aux autres livres de Aline Pettigny, un livre qui parle de la peur, hein, qui est un roman.
qui est un roman fantastique.
Hein, roman ça, fantastique voilà, et qui parle de la peur. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que vous allez dans ce domaine-là?
Parce que c'est le fantastique, c'est très drôle. On a, c'est comme, c'est un jeu. On a le droit à tout, du moment que ça tienne la route et que ça soit cohérent. On a le droit à tout puisque c'est du fantastique.
Ouais.
Et là encore, je savais pas où j'allais. Je savais vraiment pas où j'allais. Et puis voilà.
C'est assez surprenant parce que, enfin, assez surprenant. Ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport à vos, à la majorité de vos publications, on est dans quelque chose qui est un petit peu à côté. On est.
C'est le plaisir de l'histoire pour l'histoire, voilà. L'histoire.
C'est le plaisir de
s'amuser à faire peur, de.
Ouais. De voir c'est réussi.
Voilà, c'est tout ça, c'est de la gourmandise, c'est des histoires de rien. C'est pas un livre comme La Princesse ou la Bergère. Il y a pas cette notion là. C'est juste le plaisir de la lecture, l'histoire qui fait que on va être pris dans l'histoire et qu'on va tourner les pages pour savoir la suite.
Un tableau hanté, un fauteuil hanté, et des enfants piégés.
Et des enfants, voilà.
Alors là, moi, je vous en veux. Enfin, je vais vous le dire. Hein, je vous en veux terriblement. C'est que moi j'ai lu le tome 1.
Ah, je vous ai pas envoyé le tome 2.
Je ne sais pas ce qui se passe dans le tome 2.
Alors
je suis désespéré.
Je voulais pas faire de tome en fait. Hein. Je voulais pas du tout faire de tome. Et puis on me l'a tellement demandé. Oui. Mais j'avais dit je ferai un deuxième tome si vraiment il y a quelque chose de très différent. Parce que si c'est pour refaire une histoire du même tonneau.
Ouais.
Dans un deuxième, ça m'intéresse pas.
Mmh.
Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, j'entame le 2. Et il m'a emmené là où je pensais pas arriver, en fait. J'étais très étonnée du livre. Vraiment. Je m'attendais pas à ça.
Alors là c'est terrible parce que c'est un livre pour jeunes adolescents. À peu près. Hein,
entre 9 et 8, 9 ans.
Et 12, 13 ans.
Ouais, c'est ça. Hein. Ouais.
Pour moi, c'est un vrai plaisir coupable, quoi. Je suis un adulte, j'ai quand même roulé, j'ai quand même lu d'autres choses, et j'ai eu un plaisir immense à lire ce bouquin. Je me suis fait prendre, j'ai suivi ces deux gamins en me disant, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Et ce fantôme, est-ce qu'il va y arriver pour de vrai? Enfin, j'ai trouvé ça. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle Le Tableau Hanté, des très jolis dessins aussi.
De Stéphanie Léon.
Et j'adore la mise en page avec ce texte et des marges qui décline l'illustration.
Exactement.
Qui va glisser progressivement.
Ouais.
Je trouve ça vraiment très, très beau, avec alors je sais pas comment on appelle ça, mais des têtes de chapitre magnifiques, enfin qui nous renvoient un peu.
C'est le travail de Stéphanie Léon.
Ouais, qui nous renvoie un peu à toute cette littérature fantastique de la fin du 19e, début du 20e, un peu trouble, avec des fantômes qui surgissent. Et c'est vraiment.
Dans la même collection, vous avez les trois tombes aussi.
Ouais.
Mais qui lui ne fait qu'un
volume.
Qu'un volume. Il n'y en aura pas d'autres.
Alors on a vu dans votre travail, on a vu la personne qui s'attache à créer les conditions pour qu'on puisse éventuellement réfléchir à soi, réfléchir sur soi. On a vu aussi que vous écriviez simplement pour le plaisir d'écrire, la folie d'écrire, voilà, simplement dire j'écris et puis il se passera ce qui se passera. Mais on est encore avec le jeune public. Moi, j'aimerais savoir, peut-être que vous allez pas comprendre où je veux en venir, mais c'est pas grave, j'ai quand même posé la question. Est-ce que vous éprouvez de temps en temps de la colère?
Oui, ouais, comme tout le monde.
Ouais. Ouais. Je veux parler de féminisme, de la place des femmes.
Oui.
Hein?
Oui.
Notre première conversation avec Aline de Pétigny. Ah, vous animez cette émission. Alors, elles sont où les femmes dans cette émission?
Alors, il y en a, mais comme je vous l'ai dit, j'avais compté deux fois moins que...
Non.
Non.
Un peu... Ne me vexez pas trop, quand même.
Excusez-moi, désolé. Donc, c'est un domaine où c'est facile, la parité est aisée dans ce domaine-là.
Ouais.
Voilà, on n'est pas... Voilà.
Ouais. Non, j'ai lu sur votre blog un texte de début juin, je crois, où vous avez écrit en étant complètement énervé dans un salon du livre auquel vous avez participé, où la représentation des femmes était indigne,
Quand il y a deux fois plus d'hommes que de femmes, je veux dire, un colloque de plombier, je pourrais comprendre que ça soit dit peut-être un peu difficile de trouver des femmes plombiers, un petit peu plus difficile que trouver des hommes plombiers. Oui. Mais on est dans le domaine artistique, dans le domaine du livre, et là, franchement, oui, c'est facile, la parité est très facile. Et comme la parité n'est pas naturelle, elle ne vient pas, il faut se forcer en fait à la faire.
Est-ce que c'est la colère, l'engagement? Est-ce que ça, c'est un sujet que vous pourriez traiter?
C'est la conscience que le fait d'avoir invisibilisé les femmes comme ça, les femmes de l'histoire, de les avoir invisibilisées comme ça, d'avoir fait en sorte qu'elles ne créent pas, et qu'on pense qu'en fait, qu'il n'y a pas de femmes peintes, qu'il n'y a pas... ça a un impact sur notre société qui n'est pas négligeable. Qui est même pour moi très important. Et c'est cet impact-là, cette non-conscience de cet impact qui me désole. Parce que, quelque part, c'est assez aisé de mettre, d'avoir autant de femmes dans votre émission que d'hommes. Quand il y a un salon du livre, d'avoir autant de femmes invitées que d'hommes. C'est juste qu'il y a une non-attention à ça. Moi, j'ai été dans des écoles où je regarde toujours au mur des classes ce qu'il y a, et ils sont accrochés, un portrait de Mozart, un poème de Maurice Carême, et je caricature pas, mais extraordinairement, majoritairement des œuvres d'hommes. Et que les femmes ne sont juste pas présentes.
Ça pourrait, j'essayais de poser la question tout à l'heure, mais ça pourrait faire un sujet de livre
C'est un sujet, je l'ai fait. Oui, ça s'appelle Les projets d'Ariadi.
Oui.
Les projets d'Ariadi, il faudrait juste que je leur dessine, je ne suis pas contente des dessins.
Je suis curieux de voir ça.
Mais
ça
les projets d'Ariadi, c'est une petite fille qui... Alors c'est un livre qui a une douzaine d'années quand même, il ne date pas d'aujourd'hui, il a une bonne douzaine d'années. Et c'est une petite fille qui se rend compte que les métiers qu'elle voudrait faire, apparemment, ce sont des métiers d'hommes. Cuisinier, elle voit bien que les toqués sont des hommes. Alors, moi, maintenant, mais en 12 ans, ça a évolué. Oui. Puis heureusement. Et je parle, et c'est sa maman qui lui dit: ah, mais je vois que tu ne connais pas une telle. Je parle même de Rosa Bonheur,
qui est à la mode aujourd'hui.
Voilà, qui cette année on parle d'elle, mais il y a 12 ans, Rosa Bonheur était strictement inconnue. C'est fait.
Moi, je voulais vous entendre un peu sur ça aussi, puisque ça a été un des sujets de conversation que nous avons eu au téléphone. Je vous remercie de vous être déplacé entre
plaisir,
les pages.
Avec grand plaisir.
L'émission va se prolonger. On va faire une petite pause musicale.
Regarde, et leurs yeux
mercredi 6 juillet. Et hop là, je me trompe de document. Voilà, ça me, c'est comme ça. On fait pas attention, on discute avec les invités. Et puis, on se perd. Chahut, ce chanteur s'appelle Chahut, étrange nom. Il a interprété Ciel Bleu et c'est un extrait de son tout nouvel EP. Et oui, vous êtes bien sur Radio G et vous pouvez aussi écouter Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou, sur le www.radio-g.fr à Champagnac-la-Prune, qui n'est pas très loin de Saint-Martin-la-Méanne, dans le département de la Corrèze, mais aussi ailleurs dans le monde entier. L'ultime étape de son tour du monde est enfin arrivée, destination l'Amérique du Sud et plus précisément le Venezuela. Julien fait nous part des pépites noires recelées par ce pays.
Ah, 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 tour du monde.
What is your nationality?
I'm a drunkard.
That makes Rick a citizen of the world.
Chers auditeurs d'Entre les pages, mon très cher Luc, aujourd'hui, je vous propose, comme ultime étape de mon tour d'immonde, de nous arrêter à la lettre V. Alors, il n'y a guère de suspense quant à notre destination. Certes, j'aurais pu malicieusement poser mes bagages littéraires au Vatican, au lieu du thriller ésotérique, et cela bien avant l'arrivée d'un certain Dan Brown. Tout ça, c'était si j'avais pu débusquer un auteur du coin et du cru. Mais non, les auteurs de thrillers ésotériques, qui pullulent, sont pour l'essentiel ou des anglo-saxons ou des français. Et non content de nous révéler des complots internationaux avec parfois une horde d'espions et de contre-espions, ils prennent souvent un étrange chemin de traverse. Le complot remonte à des millénaires, et c'est au moment où un nouvel héros arrive dans une nouvelle temporalité que ce complot prend tout son sens et que des sectes se livrent à une guerre féroce pour obtenir le pouvoir d'une certaine relique. Si en plus vous avez un intermède pendant la Seconde Guerre mondiale avec des nazis, vous avez tout bon. Attention, j'adore Indiana Jones et plus encore Harrison Ford, mais je déteste le réchauffé. Surtout quand il l'a déjà été auparavant. Donc, je viens de vous épargner toute une gamme de romans du Vatican à passer 2 heures au micro-ondes. Et vous pouvez me remercier. Mais si vous aimez vous autoflageller, allez vous acheter quelques opus non pas d'EI, mais de Steve Berry. Ça rime, et surtout, ça ne mange pas de pain azime. Place maintenant à notre dernière destination. Le Venezuela. Quand on pense pays d'Amérique du Sud, on a des réflexes éditoriaux. D'un côté, métellier, et de l'autre, asphalte. Et là, ça tombe plutôt bien. À ses presque débuts, Asphalte a publié « L'île invisible » de Francisco Zuñaga. Et ce roman est à l'image de ce que bien souvent publient les deux éditrices de la maison, à savoir un ouvrage qui flirte avec les genres. L'intrigue se situe sur l'île de Margarita. Une vieille Allemande débarque pour savoir les raisons de la mort de son fils par noyade. Elle engage alors un avocat et celui-ci remue ciel et terre, embête la police afin de dénouer les fils de l'histoire. Et l'histoire, elle, nous embarquera du côté des combats de coqs avec un texte où la narration explose et les points de vue se multiplient. Comme toujours, le texte est littéraire. Le style propice au voyage et il y a de la nostalgie. Pour la vieille Allemande, il s'agit plus d'une quête que d'une enquête. Mais, de l'une à l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence. On pourra regretter cependant que Francisco Zuñaga n'a pas eu d'autres textes de traduits depuis celui-ci, 2013. 9 ans déjà. Ce qui n'est absolument pas le cas de Juan Carlos Méndez Guedes, l'auteur vénézuélien de chez Métellier. À vrai dire, avant d'être publié dans la collection Bibliothèque hispano-américaine, il avait déjà été édité par 2 fois chez Zinia, un petit éditeur de l'Ain, pour Mambo Canaille, un texte madrilène qui s'intéressait au destin de 3 personnages, et pour Idéogramme, avec un S, un recueil de 12 contes sur les aléas de l'existence et leurs tracas. En 2018, Métellier publie donc « Les valises », roman critique de la corruption étatique et du chavisme triomphant. Le personnage principal de ce roman, Donizetti, est un journaliste de Caracas qui arrondit ses fins de mois en trimballant d'étranges mallettes aux quatre coins du monde. S'il se pose la question de savoir ce qu'il y a dedans, sa curiosité s'arrête là, car au Venezuela, se poser des questions peut être source de problèmes. Et les problèmes ne manquent d'ailleurs pas, car à Caracas, mieux qu'ailleurs, on disparaît facilement du jour au lendemain sans laisser de traces. Malgré son discours, le roman est une suite de tribulations facétieuses, appuyées par des personnages secondaires dantesques, à commencer par la propre femme de Donizetti, qui fait des fleurs en porcelaine. Satire féroce d'un État corrompu, Les Valises, de Juan Carlos Méndez Guédès, est un très bon roman noir. Faut dire qu'il y a le terreau. Et pour celles et ceux qui adhéreront à ce roman, l'auteur nous en a sorti un nouveau l'année dernière, La Vague Arrêtée, avec une détective privée qui erre entre Madrid et Maracas sur fond de séquestration d'une fille d'un homme politique. C'est simple, c'est efficace, et ça vaut tous les voyages du monde. Bonne lecture.
Julien, ce tour d'immonde va nous manquer, mais je sais que pour la nouvelle saison de Entre les pages, tu nous concoctes une nouvelle chronique et j'ai l'impression que tu veux nous en faire voir de toutes les couleurs dans le domaine, cette fois, de l'édition. J'attends avec impatience tes propositions. Mais Entre les pages, c'est déjà fini. Avant de débrancher le micro, je veux vous donner quelques informations sur l'été de Entre les pages. Ce seront 4 rendez-vous qui vous seront proposés. Je suis parti en reportage à la découverte de maisons d'écrivains pour cette première tentative. Que des écrivains morts, je suis désolé. Le 20 juillet, je vous présenterai donc l'incontournable Liré, avec un Y s'il vous plaît, son château de la Turmelière pour le moderne, non mais celui qui va... pas le moderne Turmelière, pardon, mais celui qui vit naître il y a 500 ans, Joachim du Bellay. Puis le 3 août, c'est dans la maison de Julien Gracq que je serai, j'y suis allé régulièrement, cette fois je vous la ferai découvrir en compagnie de Jacques Boislève, qui fut compagnon et ami de Julien Gracq. Le 17 août, rendez-vous chez Hervé Bazin au château du Paty. Voilà bien un projet fou. Monsieur Jean-Christophe Garnier, un particulier, a racheté le château. Il l'a rénové et maintenant l'a rendu accessible au public. Enfin, le 31 août, c'est à Mazet, sur les terres d'Émile Joulin, que je serai plongé donc dans l'univers des Rimiaux et de la poésie patoisante. Et après cet été cultivé, je vais entreprendre un grand dépoussiérage de l'émission. Et je vous retrouverai dès le 14 septembre en direct au cours de l'émission. Vous avez entendu Aliona, Aliona en featuring avec Jerry Hale qui chantait Shtumo, pourquoi en ukrainien, et Chahu qui interprétait Ciel bleu. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 20 juillet à 17h et ce sera le démarrage de la programmation d'été à Liré. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. À nouveau, un grand merci à vous, Aline de Pétigny, pour votre visite et bon retour.
Merci, vous êtes bienvenue chez moi, j'ai une maison aussi. Il y a plein d'écrivaines qui ont des maisons.
Je vous souhaite une excellente soirée.
Vivante en plus.
Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.